Success Media présente Power, l'événement destiné aux femmes entrepreneurs organisé par la MIE du Roubaisis et l'initiative Lille Métropole Nord. Découvrez les super pouvoirs des créatrices dans ce podcast. Bonjour Fatia Lexouli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Success Media.
Avec plaisir.
C'est tout le plaisir est pour moi parce que vous êtes directrice de Little Big Women. Alors c'est une structure qui fait beaucoup parler d'elle sur la métropole lilloise notamment. On vous voit un petit peu partout dans les événements auprès des femmes. Nous allons parler des femmes créatrices d'entreprises, futures créatrices d'entreprises. Vous allez les accompagner de A à Z dans leurs projets. On va découvrir un petit peu tout votre parcours. Vous êtes avec nous aussi parce que tous les ans vous participez à cet événement que l'on développe ici sur Success Media en ce moment, c'est l'événement Power. Là, cette année, vous avez envoyé une de vos créatrices. Je vous renvoie d'ailleurs pour écouter le podcast d'Amélie Fabretti et de la boutique Trop Trop Bien. Sur Success Media, vous pouvez retrouver le podcast. Alors Fatia, est-ce que vous pouvez me faire un petit peu l'historique de Little Big Women? L'aventure a démarré il y a combien de temps?
Alors, l'aventure a démarré il y a 5 ans, mais elle émane quand même de 20 ans d'une autre structure qui s'appelait Initiative Plurielle. Donc en 97, mmh. On était pionniers de l'entrepreneuriat féminin. On a monté cette structure Initiative Plurielle pour répondre à un programme européen Égalité des chances.
D'accord.
Donc, en fait, dans ce cadre-là, on s'est dit, pourquoi il y a autant de femmes que d'hommes qui désirent créer leur entreprise et qu'au bout du compte, depuis plusieurs décennies, on stagne à 30% à peu près sur la création d'entreprise.
Voilà. Même encore aujourd'hui? Ou alors, c'était le constat d'il y a 97?
En fait, on stagne, quand je dis 30, c'est entre 28 et 32%,
d'accord.
Mais ça bouge très peu. Si je prends les auto-entrepreneurs, là, on peut dire qu'on est à 40%, mais l'auto-entrepreneuriat, c'est vraiment créer son propre emploi. Mm-hmm. Ça augmente à ce niveau-là. Par contre, sur la création d'entreprise, de manière générale, ça bouge tout doucement.
D'accord.
Et ça bouge quand même, mais vraiment doucement. Surtout par rapport à ces volontés des femmes de désirer créer leur entreprise. Voilà. Et du coup, on s'est posé la question, mais pourquoi? Pourquoi il y a ce décalage entre cette volonté de vouloir créer son entreprise et puis effectivement le fait d'oser y aller, d'oser se développer, d'oser aussi aller vers la reprise d'entreprise, que là les femmes sont encore moins nombreuses vers la reprise. Et si je prends des entreprises de plus de 50 salariés, les femmes ne sont plus qu'à 12%.
D'accord.
Donc on n'ose pas se développer. Quand on crée petit. Donc c'est comprendre un petit peu pourquoi. Qu'il n'y a pas de raison, les femmes ont autant d'atouts que les
Bien
hommes.
Sûr.
En plus, elles sont plus diplômées que les hommes. Mmh. Et du coup, à un moment donné, elles perdent en qualification par rapport à leur parcours professionnel.
D'accord.
Je pense que c'est une des raisons, avec bien d'autres dont on pourra éventuellement parler. Et du coup, nous, on a essayé pour répondre à ce programme européen. D'abord, pendant les 3 premières années, d'être en expérimentation. En se disant, l'idéal, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'évaluer, de faire remonter les besoins, de voir pourquoi, comment on peut répondre différemment.
Ouais. Parce que, essayer de répondre à cette question, finalement, pourquoi il y a moins de femmes sur le marché
exactement.
De l'entrepreneuriat.
C'est un petit peu ça, l'objectif de au départ, Initiative Plurielle, et ensuite, depuis 2016, Little Big Woman. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je veux dire, après plus de 20 ans dans la promotion de l'entrepreneuriat, on sait un peu faire des constats et
puis,
y apporter des réponses, même si on innove régulièrement, parce que justement, on est toujours à l'écoute des bénéficiaires. Quoi.
Alors Fatia, vous étiez où en 97, avant ce déclic de participer à ce projet européen? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? Et surtout, quel a été le point culminant, vraiment le déclic qui a fait que vous avez voulu participer et répondre à cette question? Est-ce que c'était parce que vous-même, vous aviez voulu créer votre entreprise ou pas du tout?
Non, par rapport à moi-même, je me souviens très bien qu'étant jeune, je voulais devenir avocate.
Ouais.
Et que quand j'avais dit ça, je crois que c'était en sixième, que le professeur de français nous avait demandé ce qu'on voulait faire et que les femmes disaient infirmière, institutrice. J'avais pas encore conscience de ça, mais moi, je rêvais de justice dans le monde et du coup, le métier d'avocate, me plaisait bien. Et j'avais osé dire, je dis bien osé parce qu'il y a eu un froid,
un blanc,
carrément, oui. J'avais dit avocate et puis on a regardé. Alors les garçons, il y avait de tout. Ils pouvaient être ingénieurs, pilotes d'avion. Ça partait dans tous les métiers. Mais quand même, j'ai ce souvenir que les femmes étaient quand même dans des métiers plutôt traditionnellement.
D'accord.
Destinés aux femmes. Après, c'est par rapport à ce qu'on leur envoie aussi.
Bien sûr. C'est un problème sociétal qui remonte
à très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. J'ai fait des études d'expertise comptable parce que mon père était commerçant et qu'il payait cher son comptable et que je l'aidais et qu'il me disait que là, il y avait du boulot.
Ouais.
Il avait quatre filles et trois garçons. Et puis, il disait toujours que les filles, il fallait qu'on s'en sorte parce que c'est plus difficile pour une fille quand on n'a pas de diplôme. Donc, il nous a plus incité que les garçons à avoir des diplômes.
C'était différent de l'école, du coup. Là, vous aviez un vrai soutien.
Voilà.
Un vrai...
Oui, oui, oui. Ouais. Mais
parce que expert comptable, c'est pareil. On peut imaginer que...
Ah ben, on était deux filles à l'époque dans la formation. Voilà, quoi.
Donc il y a eu ce soutien familial. Donc parti dans les études d'expert comptable.
Voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que travailler dans un cabinet d'expertise, c'était vraiment pas mon truc. Non pas par rapport à la compétence, mais plus par rapport à l'ambiance.
D'accord.
Donc j'ai dévié vers la formation. Je suis allée faire une formation d'un an à l'ICAM, à Lille d'ailleurs, à l'époque, de formation de formateur. Puis après, j'ai donné des cours de gestion de comptabilité, d'économie, dans des centres de formation plutôt.
Donc cette notion finalement déjà de transmission en fait.
Voilà. Ouais. Oui, je pense que ça me plaisait bien. Oui, tout à fait. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à répondre à une offre qui était à Paris. Donc j'ai travaillé en tant que responsable pédagogique pour une structure qui on créait des outils pédagogiques et puis on allait former des formateurs toute la France avec notre valise pédagogique.
D'accord.
Et puis ensuite, je suis revenue à Lille après mon premier enfant. C'était plus tellement possible de
concilier les deux, la vie parisienne.
Et c'est là où il y a eu un petit... où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai repris des études anciennement. Alors maintenant, c'est Schema. À l'époque, ça s'appelait l'ESC. Sur le management. Et puis, je me suis retrouvée à faire mon stage dans une structure qui travailler sur l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que le responsable a dit ok, on veut bien te prendre, mais tu...
Faut être autonome.
Autonome, et tu réfléchis à ton projet, si tu peux créer ton poste là. Et là, ça me plaisait bien, cette idée d'intrapreneuriat. C'est-à-dire créer son poste à l'intérieur d'une structure qui s'appelait Extramuros, d'ailleurs.
La feuille blanche ne vous faisait pas peur, du coup?
En fait, je m'étais dit... j'avais ce soutien aussi parce qu'il m'a aidé à réfléchir sur quel projet. Au départ, je me disais, mais où je vais aller, vers quoi, etc. Lui travaillait beaucoup avec des programmes européens, donc on voyait arriver les appels à projets. Et il y en avait un sur le handicap. À un moment donné, ça m'avait tenté. Puis en fait, à un moment donné, est arrivé un programme européen sur l'égalité homme-femme et la création d'entreprises au féminin. Et là, je me suis dit, ah, ça, je le sens bien.
Ça a été le déclic.
Ça a été le déclic, voilà.
D'accord. Voilà. C'est comme ça que donc, Initiative Pluriel a été créé en 97. Et alors ce projet, donc 3 ans, vous avez dit à peu près, de recherche sur le pourquoi du comment, pourquoi il y a beaucoup moins de femmes sur le marché de l'entrepreneuriat. Au bout de 3 ans, alors comment ça se passe? Vous aviez déjà une équipe ou alors vous étiez vraiment toute seule livrée à vous-même?
Alors l'équipe était le... Enfin, en tout cas, il y avait mon responsable, on avait un stagiaire qui travaillait avec nous. Et pendant ces 3 ans, on a expérimenté au sein d'Extramuros, en fait.
D'accord.
Donc, en entrepreneuriat, en allant chercher aussi à un moment donné d'autres financements, etc.
Ouais.
Et du coup, ces 3 ans, c'était, j'allais dire, quand je parle d'expérimentation, je parle aussi d'observation, d'évaluation, de faire remonter les besoins, de préconisation, pour essayer de voir comment le dispositif pourrait répondre au mieux aux besoins des femmes. C'est là que c'est d'une grande richesse, parce que du coup, j'ai à la fois été dans l'observation, mais en même temps, comparé, lu des études européennes, voire internationales, sur la problématique, parce que c'est pas qu'en France, hein, ce problème-là.
C'est mondial.
Voilà, du coup, on est parti de ces constats.
D'accord.
Et à partir de ces constats, on a mis en place des actions qui évoluent toujours, encore aujourd'hui.
À travers des événements, des accompagnements. Alors juste, vous avez fait un gros travail de journalisme finalement. J'imagine que vous avez rencontré des personnes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs. Vous avez rencontré aussi des structures qui accompagnaient déjà ces femmes, ou alors il y en avait très peu à cette époque-là?
Alors nous, on était pionniers de l'entrepreneuriat féminin.
D'accord.
Dans la région en tout cas, parce qu'il y en avait deux au national. Hein,
ah oui, c'était vraiment feuille blanche-blanche du coup.
Toulouse et une en Bretagne, je me souviens bien, parce que je suis allée voir ce qui se passait ailleurs.
Ouais, d'accord.
Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais à cette époque-là, il n'y en avait pas.
Ouais.
Donc on était vraiment les pionniers, quoi. Du coup, c'est feuille blanche, comme vous dites. Donc après, c'est pas facile. Enfin, on s'est vite rendu compte que, effectivement, il y avait des freins liés... à l'éducation, hein, comme on n'apprend pas aux femmes et aux hommes à être les mêmes, dès l'origine, que l'éducation au niveau, familial, scolaire, voire même sociétal, de ce qui est renvoyé par rapport aux stéréotypes, aux représentations. Le rapport au pouvoir, le rapport à l'argent, le rapport au management, le rapport à la gestion va être différent. Et ça, nous, on le voit au quotidien, vraiment. Le fait de ne pas s'être construit de la même manière. Donc ça, c'est une première chose. Ça induit aussi un problème lié à la confiance en soi. forcément, parce que les personnes ont toujours le syndrome de l'imposteur est très présent chez les femmes, même les femmes qui, j'allais dire, ont des parcours incroyables, qui sont surdiplômées, qui ont eu parfois des postes à responsabilité, etc. Elles viennent nous voir encore aujourd'hui en nous parlant de cette petite voix qu'elles ont de temps en temps qui leur dit « Est-ce que je suis bien à ma place ? Est-ce que je suis légitime ?» Ce fameux syndrome de l'imposteur qui est présent chez tout le monde, quel que soit la classe sociale.
Et encore plus chez les entrepreneurs d'ailleurs. Et là, on ajoute une couche effectivement avec les femmes. Alors du coup, quand elles arrivent chez vous, quand vous alliez à la rencontre de ces femmes, quel est l'axe de travail ? Est-ce qu'il faut déconstruire tout ce qu'elles ont appris finalement et puis instaurer de nouvelles façons de penser ? Ou alors, comment ça se passe ?
Alors du coup, oui, bien évidemment que... en tout cas, sur cette problématique qui est plutôt liée à la posture, parce que la confiance en soi, l'affirmation de soi induit une posture, et la posture d'entrepreneur, c'est quand même normalement une posture de leadership. On doit quand même avoir entièrement confiance en soi, notamment par rapport à toutes les composantes du métier de chef d'entreprise.
Toutes les compétences auxquelles on doit faire appel.
On doit faire appel à pas mal de compétences. On rencontre énormément de partenaires qui peuvent être des clients, des fournisseurs, des partenaires, des prescripteurs. Et à chaque fois... il y a aussi des négociations à avoir, dont des négociations commerciales. Et moins je suis à l'aise, moins j'ai confiance en moi. J'ai beau apprendre tous les outils du monde en passant par plein de structures d'accompagnement qui vont m'apprendre à faire un super plan de communication ou un plan commercial avec un super fichier client. Si je n'ai pas travaillé le savoir-être, la posture, il va manquer quelque chose d'important. Donc, d'où l'importance d'être vraiment sur une vision à 360, c'est-à-dire travailler sur tous les composantes du métier de chef d'entreprise, qui est vraiment pertinent. C'est d'être à chaque fois sur apporter des outils, la méthodologie, la compréhension de l'environnement économique, etc. Mais aussi faire un travail important avec des coachs sur la posture, sur le leadership, pour retrouver confiance et pour avoir la bonne posture pour pouvoir réussir sa création d'entreprise et apprendre son métier de chef d'entreprise.
Alors, Little Big Woman, si on peut résumer ça en une phrase, quel est votre défi du quotidien ? Quelle est votre mission quand vous avez créé Initiative Plurielle et maintenant Little Big Woman ? Quelle est cette genèse un petit peu qui est partie de cet appel à projet européen ?
En fait, on a essayé de comprendre ce que les femmes souhaitaient avoir. Et elles nous parlaient toutes dans les interviews qu'on a pu faire, de trouver une structure qui puisse... qui soit à la fois très j'allais dire concrète, opérationnelle et personnalisée, où on les accompagne de manière très personnalisée, où on puisse tenir compte de leur contexte familial avec les contraintes liées à la conciliation familiale et professionnelle, où on puisse les entendre par rapport à leurs peurs, leur crainte d'oser l'entrepreneuriat et apporter des réponses précisément à ça, où on puisse aussi les mettre en collectif avec d'autres femmes pour qu'elles ne se sentent plus isolées, qu'elles puissent se sentir reboostées, qu'elles puissent du coup échanger sur des bonnes pratiques, etc., et grandir.
Parler à des personnes qui les comprennent, finalement.
Parler à des personnes qui les comprennent, où elles puissent également avoir des exemples de réussite au féminin. C'est ce qui manque énormément, et justement pour pouvoir s'identifier et qu'on puisse être à la fois, justement, ce que je disais tout à l'heure, sur des aspects à la fois opérationnels, concrets, mais aussi sur des aspects de posture et de développement personnel. Et ça, c'est un peu ce qui peut manquer aujourd'hui. Ce qui est important si on veut vraiment, et ça c'est vraiment notre raison d'être, si on veut vraiment que les femmes osent plus, déjà créer et ensuite osent se développer et montrer l'exemple à d'autres après.
Tout à fait. On a ce besoin d'identification, et encore plus quand on est entrepreneur où par définition on se retrouve tout seul du jour au lendemain, effectivement. Alors c'est un côté génial parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut aussi, quand on se lève le matin, se dire j'ai ça à faire, le côté organisationnel, opérationnel, et puis toujours se redonner des missions en plus de toute la facette vraiment logistique à gérer dans son entreprise. Alors admettons que je sois une femme, on est à la radio, on peut y croire, admettons que je sois une femme, demain je viens à votre rencontre à Little Big Woman, comment ça se passe ? Quel est le processus un petit peu qui va se mettre en place entre nous ? J'imagine que ça démarre par un entretien ?
Alors ça démarre par un entretien téléphonique d'abord.
D'accord.
Et ensuite assez rapidement une réunion d'information. Donc tout le monde passe par cette réunion d'information. C'est important parce que c'est la réunion à la fois qui va expliquer toute l'offre de service, qui va surtout expliquer les valeurs de Little Big Woman. Donc il faut aussi que les personnes se sentent en cohérence avec cette éthique, avec ces valeurs.
Quelles sont-elles ces valeurs ?
En fait, on est vraiment... c'est d'ailleurs ce qui fait l'ADN de Little Big Women, dans une structure où on va apporter, bien évidemment, mais chacune peut apporter à l'autre. Et on va dire qu'on vient... À un moment donné, peut-être pour chercher, enfin, on a besoin d'énormément de choses, donc on va prendre beaucoup de tout ce qu'on va pouvoir leur proposer, mais avec toujours cette idée de pouvoir, à un moment donné, être dans le rendre, dans la réciprocité. Alors, ça peut se faire immédiatement parce qu'on s'aperçoit que des personnes ont des compétences autres, qu'elles ont envie de partager, justement, ça leur permet aussi de grandir.
Bien sûr.
Ça peut se faire aussi par rapport à des. On met en place, au-delà des ateliers, des formations, on met en place des cercles de co-développement qui fait appel à l'intelligence collective et là tout le monde va participer, c'est-à-dire qu'un cercle de co-développement, on en a 10 en ce moment qui sont en cours, hein. On forme des animateurs à animer justement ces cercles de co-dev parce qu'il y a vraiment une méthodologie très précise, mais on met 8 personnes ensemble, donc 8 femmes qui sont en projet, qui peuvent être proches de la création, éloignées ou qui ont déjà créé. Donc on fait vraiment un mix parce que c'est important d'avoir ce mix-là. Et en fait, elles vont se rencontrer 8 fois. Et à chaque fois, il y en a une qui va poser une problématique et tout le monde va réfléchir grâce à une méthodologie qui est suivie par l'animateur ou l'animatrice.
Ouais.
Tout le monde va apporter sa contribution.
D'accord.
Donc, et la personne repart avec... on lui propose des solutions, ou on lui propose en tout cas un chemin à suivre, ou en tout cas une manière peut-être de se reposer les bonnes questions par rapport à sa problématique, etc. Et le dernier quart d'heure, elle va se faire un plan d'action à partir de tout ce qu'elle va entendre.
Ah, super.
Et la fois suivante, avant de passer à la personne suivante, elle va dire ben voilà comment j'ai cheminé par rapport à ce qu'on m'a apporté. Donc là, je vous donne un exemple de collaboratif, mais il y a plein de collaboratifs chez Little Big Woman. Et ça, on le pose dès la première réunion d'information. Du coup, en donnant l'offre de service, en écoutant les premiers projets, les personnes peuvent dire ben, ça répond à mes attentes, donc je peux venir. En même temps, je pense que je partage aussi vos valeurs et ça me va bien, donc je viens. Sinon, je ne viens pas et ce n'est pas un problème. Quoi.
Je vois, mais au moins les bases sont données et puis il y a une certaine clarté auprès de ces femmes qui souhaitent participer à ces événements et puis surtout à la création de leur entreprise. J'imagine que ça permet aussi à certaines personnes de se remettre à niveau aussi, dans le sens où parfois on croit qu'on peut créer une entreprise ou que c'est le bon moment, parce qu'il y a un moment pour créer une entreprise dans une vie, etc., selon ses compétences, selon sa confiance en soi, comme vous le disiez, et puis un petit peu son envie. J'imagine que cette première passerelle-là aussi, elle permet de dire « Ok, j'y vais » ou alors « Je vais attendre encore un peu ».
Alors, ce n'est pas pour les freiner, en fait, hein, parce qu'on ne voudrait pas fermer une porte encore, parce que parfois, on a des personnes qui... En fait, les femmes qui viennent nous voir, elles peuvent déjà avoir créé leur entreprise, mais avoir du mal à se développer, donc elles peuvent venir nous voir pour se développer. Elles peuvent avoir juste une idée ou une envie se lancer dans la création d'entreprise, comme elles peuvent avoir déjà avancé et avoir besoin d'un coup de boost à la fin. Donc, peu importe... les profils,
le niveau d'avancée finalement.
Le niveau d'avancée des personnes. Et on va leur dire que si elles sont motivées, surtout, pour avancer dans leur projet, elles peuvent venir faire un bout de chemin avec nous, ou un court ou long, peu importe, et que peut-être elles ne créeront pas. Mais en tout cas, tout ce qu'elles vont mettre en place dans le cadre de ce projet de création d'entreprise va leur être très utile, parce qu'elles vont se qualifier en avançant et elles vont apprendre énormément de choses qui sont, j'allais dire, presque transférables pour un futur métier. Donc moi j'aime bien voir avec elles tout ce qu'elles ont pu acquérir en termes de soft skills, en fait, enfin ce qui va être lié on va dire plutôt
au savoir-être
et ça c'est, j'allais dire, c'est les compétences de demain en entreprise. Donc la plus on peut avoir à peu près un tiers, voire un peu plus de personnes qui créent, un tiers qui retrouvent un emploi grâce à cette... grâce au fait de ne plus être isolé, grâce au fait d'être en démarche projet, parce que ça c'est important d'être en démarche projet. C'est-à-dire que quand on est en démarche projet, quand on est dans une dynamique collective, quand on est dans une certaine énergie et qu'on retourne à des entretiens, ça se passe beaucoup mieux.
Ouais.
Et ça, ce serait plutôt pour les femmes qui viennent créer par défaut aussi, en disant j'arrive pas à trouver un emploi, donc je veux créer mon emploi. Ou après, il y a des femmes aussi, parce qu'aujourd'hui on se lâche beaucoup. différentes casquettes, qui se disent bah moi, par sécurité, je vais avoir un emploi à temps partiel et par passion, j'ai envie de créer dans ce domaine d'activité. Et ça, on est aussi à l'écoute de ça. Quoi.
Ah, c'est super parce qu'il y a vraiment cet accompagnement individuel et humain, j'ai envie de dire, au-delà de l'aspect vraiment pratico-pratique de la création d'entreprise. C'est vraiment super. Alors, à travers ça, vous participez à beaucoup d'événements, notamment l'événement organisé par la MIE de Roubaix et l'ILMN qu'on a appelé Power. Cette année, vous y avez envoyé une de vos créatrices qui a participé aussi à Little Big Woman. Est-ce que c'est important d'être dans ce genre d'événement? Alors, il y a Power, mais il y en a plein d'autres sur la métropole lilloise. Est-ce que c'est vraiment important pour continuer d'être au contact d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs qui passeraient par Little Big Woman?
Oui, donc c'est vrai que cette année, on n'y est pas allé, mais les autres années, on y allait avec grand plaisir. Et là, j'ai envoyé une créatrice qui a parlé de son parcours et également de Little Big Woman. Pour moi, c'est très important. Après, quand je dois dire non, je suis souvent pas très ravie de dire non. Il y a une disponibilité, mais sinon, j'y vais tant que je peux, surtout parce que c'est important, justement.
De continuer votre mission, finalement.
De continuer ma mission par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Et surtout, quand ces événements invitent des créatrices, c'est à la limite, j'allais dire, presque plus important que nous. Bon, on va parler effectivement de notre manière d'accompagner des femmes, de répondre à leurs spécificités, à leurs problématiques, etc. Mais les créatrices vont parler de leur parcours, vont donner envie à d'autres femmes d'y aller. Et ça, c'est pour moi très important parce que c'est justement ce que je disais tout au début, ce qui peut manquer, quoi. Les exemples de réussite qu'on a envie de suivre.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est vraiment cette notion de transmission qu'on sent chez vous. Alors, on va, pour finir notre entretien, petit rituel, on va se projeter d'ici une dizaine d'années. Alors, on a vu que les chiffres augmentaient tout doucement. C'est une transition, c'est un peu comme l'écologie. Ça prend beaucoup de temps de faire changer une société. Vous êtes un acteur une actrice, pardon. Vous êtes une actrice de ce changement.
Je ne vais pas me vexer pour
Je plaisante, c'était pour la blague, justement. Mais vous êtes une actrice de ce changement. Dans 10 ans, quels sont vos objectifs un petit peu à travers Little Big Woman et peut-être à une plus grande échelle à votre mission personnelle?
Alors, moi, j'aurais peut-être pris ma retraite. Moi, c'est personnel. Enfin, normalement, j'espère. Enfin, j'espère. Alors, je peux peut-être rêver un peu. J'ai rêvé de ça pendant 30 ans. Donc.
On est là pour ça.
J'ai le droit de me projeter, là.
Bien sûr.
Voilà. Donc, d'un seul coup, il va y avoir une prise de... Enfin, d'un seul coup, non. Je pense qu'il y a des prises de conscience au niveau politique, mais elles sont quand même assez lentes par rapport à cette nécessité de mettre en place des moyens financiers pour que justement il y ait des actions spécifiques pour les femmes. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que justement les pays qui ont réussi à avoir l'égalité aujourd'hui, ou qui sont presque, c'est parce qu'il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, comme vous me projetez dans ça, il y a eu une prise de conscience politique de cette réalité. Et aujourd'hui, vraiment, moi je sais que j'ai dû me battre, pas simplement avec les partenaires, de manière générale, comme une femme devait se battre pour avoir le droit de créer son entreprise à une époque, moi j'ai dû défendre le fait d'exister en tant que structure spécifique pour les femmes. Il fallait expliquer pourquoi, parce que forcément on nous dit toujours une étude de marché c'est la même chose qu'on soit un homme ou une femme, tant qu'on n'a pas compris les problématiques qui peuvent exister. C'est juste le fait d'un moment donné d'être au courant. Enfin, je pense que les personnes, à partir du moment où ils prennent conscience de ça, ils comprennent cette réalité-là. Et donc, moi, un peu mon rêve, ce serait que, il y ait une prise de conscience politique, qu'effectivement, il y a besoin de mettre en place des moyens, parce que là, on se bat à 2 salariés et 50 bénévoles, alors qu'on devrait être 4 pour que ce soit, pouvoir répondre réellement à la demande. Donc, de manière générale, qu'on puisse avoir les moyens de pouvoir monter des structures spécifiques pour les femmes. Et le jour où on n'en aura plus besoin, c'est tant mieux. Vraiment tant mieux, ça veut dire qu'on aura l'égalité et que la société sera, comme elle est faite d'autant de femmes que d'hommes, dans l'entrepreneuriat, on retrouvera aussi cette complémentarité qui sera très riche, parce que justement, les femmes apportent une belle complémentarité aux hommes pour avancer et pour être efficace au sein des entreprises.
On est fait pour travailler ensemble, ça c'est sûr et certain. C'est un beau rêve que j'espère de tout cœur que vous pourrez réaliser. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Fatia Lexouli, donc de Little Big Woman. Vous êtes la directrice. Je vous invite, auditeurs, à aller voir le site internet, évidemment, littlebigwoman.com. Si vous êtes à Lille ou dans la métropole lilloise et que vous êtes une femme que vous avez envie d'entreprendre, n'ayez pas peur, passez la porte, passez un coup de téléphone téléphone. Vous voyez, ça se fait même par téléphone au début, encore plus aujourd'hui vu la situation, mais le premier contact se fait par téléphone, donc n'ayez pas peur, prenez votre destin en main et n'ayez pas peur de créer. Vous pouvez, vous en avez les moyens, vous en avez les compétences, autant qu'un homme et autant que toute autre femme qui existe. Merci d'avoir été avec nous, Fatia.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager ce podcast autour de vous. Et pour ne rien manquer de notre actualité, rendez-vous sur success-media.fr. À bientôt.